Chaud devant, un Saint-Pierre pour la 3, une religieuse pour la 7 et une bouteille de Saint-Émilion pour la 12.
Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
et comme plat principal,
est-ce vrai que Noé a dit « Après moi, le déluge ». Salut Marc.
Salut Samuel.
Alors on continue notre série de 6 émissions sur l'Alliance. La dernière fois, on a parlé de l'Alliance avec Adam.
Oui, et on a vu que l'Alliance s'est pas très bien passée, et qu'après avoir mangé le fruit de la connaissance, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden.
Et bien cette fois, l'émission parlera de Noé et du regret de Dieu d'avoir créé l'homme.
Quoi ? T'es ma boule ? Dieu regrette d'avoir fait l'homme ?
Oui, attends. D'abord, tu te souviens que l'alliance avec Adam et Ève n'a pas très bien fonctionné. Eh bien la suite n'est pas brillante non plus. Cain tue son frère Abel, les hommes construisent Babel pour faire de la concurrence et remplacer l'Éternel, et à chaque génération, c'est de pire en pire. Lisons le texte, alors. Le Seigneur, c'est en Genèse, chapitre 6, verset 5, le Seigneur vit que les méfaits de l'homme se multipliaient sur la terre et que le produit des pensées de son cœur était uniquement constamment mauvais. Et le Seigneur dit, j'effacerai l'homme que j'ai créé de dessus la face de la terre, depuis l'homme jusqu'à l'animal, jusqu'à l'insecte, jusqu'à l'oiseau du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur.
Le Seigneur regrette d'avoir fait l'homme. L'homme et les autres animaux.
Oui, c'est une remarque intéressante. Le sort des animaux semble lié à l'homme. Il y a comme une solidarité entre les deux ordres, alors que l'ordre végétal, lui, pousse tout seul. Les animaux sont donc châtiés ou sauvés avec l'homme. Avant le déluge, l'homme était herbivore. Après le déluge, il devient carnivore, car il a le droit de manger la chair animale. Le déluge pose donc le problème des rapports entre l'homme et les animaux, autant qu'entre l'homme et Dieu.
Tu disais que Dieu regrettait d'avoir créé l'homme.
Effectivement, Dieu regrette. Il souhaite purifier le monde, et pour ce faire, il prévoit d'envoyer la pluie, un déluge de pluie, et l'eau sera utilisée comme un effaceur, comme une gomme, comme un moyen de tout recommencer, de refaire une vie nouvelle, tout en conservant Noé et sa famille qui trouvent à grâce aux yeux du Seigneur.
Donc Dieu ne part pas de zéro, mais reste sur la même création, la même créature, l'homme.
D'ailleurs, l'eau est utilisée dans le baptême, pour purifier, pour retirer le mal, pour faire de nous de nouveaux hommes, des hommes et des femmes de Dieu. Le déluge, c'est l'illustration des deux dimensions de la divinité, la justice et la miséricorde. Dieu exige la justice envers lui et envers les autres hommes. Par conséquent, il y a une sanction en cas d'injustice, c'est la cause du déluge.
Mais la miséricorde limite la punition. Dieu ne détruit pas tout. Il donne à Noé et à ses fils une deuxième chance, heureusement. Et il s'engage à ne pas recommencer, c'est-à-dire à ne pas détruire à nouveau l'homme. Il n'y a pas et il n'y aura plus de sanction totale. D'ailleurs, en Genèse 8, chapitre 21. Attends, je lis. Le Seigneur respira l'agréable odeur et se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce que les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son enfance. Plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme j'ai fait. Tant que durera la terre, semaille et moisson, froid dur et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront plus. »
La miséricorde prend donc le pas sur la justice, grâce à l'alliance entre Dieu et les hommes. Il reconnaît à sa création le droit à une relative imperfection. Il y aura d'autres châtiments ou sanctions par la suite, mais qui ne mettront pas la création en péril comme le déluge. Il y a toujours la menace d'une sanction de l'injustice. Terre désertique, Sodome et Gomorre, etc. Mais une limite est posée à la sanction. La miséricorde l'emporte toujours.
Oui, si Dieu n'était que justice, le monde serait détruit. Vive le Dieu miséricordieux!
Eh oui, sans miséricorde, pauvre de nous. Donc, le déluge est une sanction à cause d'une injustice contre Dieu ou ses semblables. C'est un appel à respecter la loi divine, à aimer Dieu et son prochain. Noé, c'est un nouvel Adam, un nouveau départ. Dieu passe une alliance avec Noé et à travers lui, avec l'humanité. Les 7 commandements sont le résultat de cette alliance.
Les 10 commandements, tu veux dire? J'ai vu la comédie musicale. Laisse mon peuple...
Non, c'est bon.
Bon.
Il s'agit bien des 7 commandements. Les descendants de Noé sont liés par cette alliance et peuvent se sauver en respectant l'alliance et les 7 commandements. L'alliance passée avec Noé n'est pas abolie par celle passée avec Israël. Noé préfigure Abraham. C'est injuste, il marche à côté de l'Éternel. Mais est-il juste en lui-même ou par rapport à ses contemporains?
Je comprends pas ce que tu veux dire.
On peut être juste en étant séparé des hommes et en aimant Dieu. On peut être juste dans nos relations avec notre prochain. Noé marchait avec Dieu, c'est ce que dit le texte. Noé ne marchait pas avec les autres hommes. Est-il aussi juste qu'Abraham, par exemple ?
Ah bah, ça je sais pas.
Ce sont les questions qui sont posées par les commentateurs. En fait, Abraham, il va devenir un des personnages centraux de la tradition juive, avec Isaac et Jacob. Mais Noé, il restera un des justes parmi d'autres justes. Il y a une différence d'interprétation entre l'idée de l'universalité d'un enseignement et celle d'un privilège accordé à un peuple. La première de ces idées est incarnée par Noé, et la seconde par Abraham.
Donc si j'ai compris, Noé c'est pour tout le monde, et Abraham pour les Hébreux. Et pour Noé, il y a 7 commandements, comme les 7 jours de la semaine.
Oui et non. Noé, Abraham, Moïse et les autres s'adressent à l'ensemble de l'humanité. Mais selon la tradition, les commandements de Noé s'adressent à toute l'humanité, alors que les autres commandements s'adressent principalement au peuple juif.
Et ils disent quoi, là, les 7 commandements ?
Alors, il y a l'institution d'un système juridique et le respect de la loi. Ensuite, il y a l'interdiction du blasphème, l'interdiction de l'idolâtrie, l'interdiction des transgressions sexuelles, comme l'inceste et l'adultère, l'interdiction du meurtre, l'interdiction du vol, et l'interdiction de consommer un membre arraché à un animal vivant.
Quoi ? Alors les huîtres sont interdites ?
Marc, c'est ça que tu retiens, le côté alimentaire ? Tu vois bien l'importance de ces commandements qui s'appliquent à la terre entière ?
Oui, cette loi pour tous. Cette loi comme les 7 jours de la semaine, et comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel.
Et oui, l'arc-en-ciel, c'est le signe de la promesse de Dieu. Il a promis à l'ensemble de la création qu'il ne la détruira plus jamais à cause des péchés de l'humanité. Dieu, par le mérite de la vertu de Noé, a conclu l'alliance de l'arc-en-ciel. Cette alliance est une alliance de vie éternelle. C'est ainsi que la vue de l'arc-en-ciel et de ses 7 couleurs sert à nous rappeler notre obligation d'observer les 7 lois des enfants de Noé. Les 7 lois sont comme une partie de l'alliance de la vie éternelle, l'alliance de l'arc-en-ciel. Elles représentent les exigences fondamentales que Dieu a prescrites à tous les descendants de Noé, dont l'observance doit assurer un monde paisible et civilisé. Moi, tu sais, Marc, je dirais que Noé était un homme droit, mais avec un énorme défaut.
Quoi ? Tu dis que Noé, un homme choisi par Dieu, a des défauts ?
C'était un homme de peu de foi.
Mais t'es fou, comment tu peux dire ça ?
À aucun moment, lors de l'annonce du déluge, Noé n'a demandé à Dieu de revenir sur sa décision. Comme l'a fait par exemple Abraham avec Sodome et Gomorre. Il devait se dire qu'il valait guère mieux que sa génération. Il devait se dire que si lui était sauvé, alors peut-être les autres seront sauvés aussi. Il était trop humble, il n'a pas essayé d'empêcher le déluge.
D'accord. Et il y a aussi autre chose que j'ai trouvé étonnante. Mis à part le fait qu'il négocie pas avec Dieu, après le déluge, il est écrit que Noé s'enivre, se dénude et s'endort.
Et oui, après le déluge, au lieu de parler à ses enfants, d'expliquer le pourquoi du comment du déluge, de la destruction de l'homme par Dieu, il s'est réfugié dans le silence, dans l'ivresse. Il a quitté l'histoire consciente de l'humanité pour se replier sur lui-même.
C'est comme s'il cherchait à plus affronter la souffrance du monde, et en se saoulant sa propre souffrance. Après moi, le déluge.
En plus, il s'est dénudé.
Et alors ?
En se dénudant, il se montre nu, géniteur. Et quand son fils Cham rentre, il le voit nu et enivré, silencieux.
Ouais.
Qu'est-ce qu'un père ? Quelqu'un qui met au monde un géniteur ? Ouais, mais aussi quelqu'un qui parle à l'enfant et l'aide à advenir à lui-même, à révéler son identité. Et là, enivré, nu et silencieux, Noé, il se montre géniteur, mais dans l'incapacité d'être un père, de transmettre par la parole. Il ne souhaite plus participer à la suite de l'histoire.
Ouais, il se tape une grosse déprime.
Ouais, mais bon, une déprime passagère quand même. Et c'est d'ailleurs là la faute de Cham. Il voit son père enivré, nu et silencieux. Il voit son père qui refuse la transmission, la parole. Et la première chose qu'il fait, qu'est-ce que c'est ? C'est d'aller voir ses deux frères, Sem et Japheth, pour leur dire que leur père est hors jeu.
Je comprends pas. Tu veux dire que sa faute, son péché, entre guillemets, c'est d'aller cafeter auprès de ses frères ?
Non, non. Sa faute, c'est de faire d'une situation temporaire, accidentelle, l'ivresse et le silence temporaire de Noé, une situation définitive. En apercevant son père, en quelques secondes, son œil, son regard, lui fait dire que la situation est définitive. Il s'arrête à une perception instantanée. Il ne se laisse pas le temps de la pensée, de la réflexion, de la parole. Il s'arrête à un témoignage passif.
Et ses frères alors ?
C'est là la différence. En entendant cela, ses frères, Sem et Japheth, ils rentrent dans la tente où est Noé, tout en s'arrangeant pour ne pas le voir. Ils le couvrent. Ils décident de ne pas se fier à de l'instantané, mais laissent à leur père le temps de la réflexion.
Si j'ai bien compris, de ce que tu viens de dire sur Noé, on peut tirer plusieurs leçons.
Oui. Oui, de Noé qui n'ose pas discuter avec l'Éternel pour empêcher le déluge, on peut apprendre...
On peut apprendre que dire Oh, vous savez, moi je suis rien, je sais rien, puis je suis tellement signifiant. Quoi, moi aller évangéliser dans la rue, moi parler de Jésus aux autres, mais mon témoignage ne vaut rien. Eh bien, ça, c'est le meilleur moyen d'arriver au déluge, et à une génération qui se fiche complètement de Dieu.
Oui, et de Noé qui s'enivre, se dénude et s'endort.
On apprend qu'un père, c'est quelqu'un qui est un géniteur, mais pas seulement. C'est aussi quelqu'un qui parle à l'enfant, et l'aide à devenir à lui-même, et à révéler son identité. C'est quelqu'un qui, par la parole, transmet l'histoire et l'identité.
Oui, et de l'attitude de Cham, qui juge sur l'instant.
On apprend qu'il faut pas juger sur le moment, et qu'il faut se donner, et donner aux autres, le temps de la réflexion.
Voilà de quoi méditer. Eh bien, ça a été une sacrée mission. On peut dire que Noé, malgré son humilité et son désir de retrait de l'histoire, t'a transmis de sacrées leçons.
Ouais, un vrai père pour moi. Enfin, un grand-grand-grand-grand-père.
Vieux comme Mathusalem.
Ouais, un petit peu moins quand même.
C'était Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
une émission dans la dynamique du Festival de la Parole,
présentée par Samuel et Marc Landon.
Plat du jour de la semaine prochaine,
le thème astral d'Abraham.